Soyez les bienvenus, la revue de presse avec vous, Rosalie Lafarge, et l'héroïsme qui a donc un visage ce matin, et ce visage est à la une de nombreux journaux.
Le visage d'un homme qui s'est éteint depuis que les journaux ont été imprimés, mais déjà son geste était salué. Ce visage, c'est donc celui d'Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel qui s'est livré en échange de la libération d'une otage, et dont on a appris la mort ce matin, on vous en parle sur France Inter. Son sourire et sa fierté de porter l'uniforme s'affichent sur fond noir en une du Parisien, l'héroïsme d'un gendarme face au terroriste, salue le journal, sans savoir alors que l'héroïsme est allé jusqu'au sacrifice. L'officier symbolise bien l'engagement au péril de leur vie de toutes les forces françaises de sécurité contre le fanatisme, lit-on dans l'Alsace. Quand Libération nous parle tout simplement du sens du courage.
Oui, un sens du courage qui fait le tour du monde.
Le geste d'Arnaud Beltrame, la presse internationale le raconte. Le soir en Belgique, voit en ce lieutenant-colonel le héros moderne. Mais tout le monde en parle. La BBC, le Guardian, le New York Times, le journal de Montréal, même les Norvégiens du Dagbladet. On trouve des articles en toutes les langues. Parce que même si personne n'avait eu l'arrogance de penser que c'était fini, ça ne rend pas les choses moins douloureuses. Mais dans un tableau très noir, ce matin, on a quand même, c'est vrai, cette lueur offerte par Arnaud Beltrame, à un prix évidemment bien trop élevé, celui de sa vie.
Et quand ce n'est pas Arnaud Beltrame qui fait la une, ce sont souvent des images, les images des forces de l'ordre postées devant le supermarché de Trèbes.
Avec d'abord ces unes sur fond noir, comme celle donc du Parisien ou de Midi Libre, des forces de l'ordre armées, casquées, en action et en gros plan, en première page de la Dépêche du Midi, de l'Indépendant ou de la Voix du Nord, ou encore l'état de siège devant le Super U de Trèbes, qu'on retrouve en une du Figaro, de Ouest-France ou de l'Union. Ça faisait près de 6 mois qu'on n'avait pas eu ce genre d'image en une, comme un trop court répit. Retour de terreur, titre Libération ce matin. Et c'est bien sûr l'autre mot qui revient beaucoup, autant si ce n'est plus que héros. Il tue toujours, choisit d'écrire Sud-Ouest en une. La menace demeure, selon la Voix du Nord, l'horreur encore pour la Nouvelle République. Et le Figaro de nous prédire dans son édito ce qui va se passer dans les heures et les jours à venir. Les indignations, les promesses, les experts qui vont venir nous rappeler qu'il faudra nous habituer, la vie qui va reprendre son cours, et puis on oubliera.
Des experts qui nous rappellent que rien n'est fini, ils sont déjà dans la presse ce matin.
Le djihadisme demeure une idéologie hyper puissante et toujours opérante, insiste la prof de sciences politiques Myriam Benrahad dans Libération. La chute du califat n'a pas changé la donne, souligne dans le Figaro Frédéric Gallois, c'est l'ancien patron du GIGN. Le calme était trompeur, analyse Alain Bauer. Le Parisien a choisi de faire intervenir le professeur de criminologie dans ses colonnes. Et pour ce spécialiste du terrorisme, il y a aujourd'hui 2 États islamiques. L'un, territorial, qui a quasiment disparu. L'autre, virtuel, qui n'existe plus que sur les réseaux sociaux ou les messageries cryptées. C'est ce deuxième volet qui l'inquiète, parce qu'à travers lui, Daesh va tenter de se réorganiser, prévient Alain Bauer. Se réorganiser pour mettre en lien des terroristes qui ne se connaissent pas et ainsi recréer des brigades de l'État islamique.
Et un autre débat risque lui aussi de revenir sur la table.
Celui de savoir s'il y a eu une faille dans le travail des services de renseignement. Celui de savoir si ces attaques de l'Aude commises par un homme suivi, fiché S, aurait pu être évité. L'éternelle question va revenir. Était-ce évitable ? Question qui s'est posée aussi après l'agression de 4 surveillants de prison à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais en janvier. Agression par un détenu condamné pour terrorisme. Était-elle évitable ? Nul ne peut l'affirmer. En revanche, elle était prévisible. C'est à lire dans le numéro 1 du magazine Vraiment. Le nouvel hebdomadaire révèle les incidents qui auraient dû peut-être mettre la puce à l'oreille. Les agressions de détenus, les menaces de mort de surveillants et ce dernier événement, 4 jours avant l'attaque.
De la prison au tribunal, il n'y a qu'un pas.
Alors terminons, si vous le voulez bien, Rick, sur cette attaque, puisque ce jour-là, le bureau de renseignement pénitentiaire intercepte une conversation téléphonique du détenu. Il parle à sa femme et il évoque un projet de violence vis-à-vis du personnel pour qu'une nouvelle affaire soit engagée à son encontre, a priori pour échapper à une demande d'extradition. La menace au téléphone est prise au sérieux. Si bien que le jour même, et c'est toujours dans Vraiment, les surveillants du quartier d'isolement ont droit à un équipement de protection. Précaution levée dès le lendemain pour cause d'ambiguïté de la conversation téléphonique. Pourquoi ? Comment ? Après coup, c'est toujours difficile à comprendre. Même si, foi de spécialistes de la radicalisation islamiste, on ne peut plus dire que l'administration pénitentiaire n'a pas saisi l'ampleur du danger. Mais le retard accumulé est tel qu'il faudra du temps pour en mesurer les effets réels.
Cette fois-ci, on y va de la prison au tribunal, il n'y a qu'un pas.
Un pas en arrière, puisqu'en général, on va plutôt du tribunal à la prison que l'inverse. Mais ce pas en arrière nous emmène dans le Paris Match de cette semaine où l'on découvre le nouveau tribunal de Paris à travers les yeux de Robert Badinter. Cette grande tour de verre rapproche des activités, autrefois éparpillées dans le labyrinthe du palais de justice ou aux quatre coins de la capitale. On peut trouver ça beau, moche, c'est selon. D'ailleurs, le laid devient le beau en ce moment, à en croire le magazine Stratégie, au moins dans la mode. Mais ce n'est pas tant l'esthétique qui gêne Robert Badinter. Non, ce qui l'embête, ce sont ses vitres partout. Même pour les petites affaires, le prévenu sera dans un aquarium derrière une vitre, dit-il. Et ça, ça le met physiquement à l'écart de son propre procès. Cela augmente la distance entre celui qui est jugé et celui qui juge. Ça n'est pas bon pour la justice, parole d'avocat.